Nous continuons le sujet que nous avons entrepris, c'est-à-dire la vie dans la dépendance de Dieu. Alors, nous arrivons maintenant, comme je l'avais annoncé, à cette notion d'environnement spirituel. L'homme naturel, né de chair, avons-nous déjà vu, est coupé de Dieu. C'est-à-dire qu'il a un environnement physique pour son corps. Cet environnement, je l'ai situé, n'est pas difficile d'ailleurs, c'est tout ce qu'il emprunte au monde qui le contient. C'est-à-dire, il emprunte d'abord l'air, la respiration, l'air pour la respiration, et l'air qu'il absorbe est une des formes d'énergie dont il a besoin. Il emprunte l'air, il emprunte l'eau, il emprunte la chaleur, et il emprunte aussi, bien sûr, la nourriture. La nourriture. Et c'est de là qu'il tire son énergie. Voyez, par exemple, ceux qui jeûnent là-bas en Irlande et qui, au bout d'une soixantaine de jours ou plus, meurent. Ils dépérissent, ils meurent, ils se sont coupés de ce que nous appelons leur environnement, c'est-à-dire l'extérieur, l'apport extérieur. L'environnement, c'est ce qui nous fournit l'apport extérieur, un apport d'énergie sous forme de nourriture, d'air ou d'eau. Eh bien, l'homme naturel a donc un environnement physique pour son corps, mais il n'a plus d'environnement spirituel pour son esprit. Alors, de même qu'il y a pour le corps un apport nécessaire, un apport énergétique, un apport nécessaire, sous forme de nourriture, d'air, d'eau, etc., eh bien, de même, l'homme créé par Dieu, à l'origine, avant le péché, disposait d'un environnement spirituel pour son esprit. Par conséquent, l'homme naturel, qui n'a plus l'esprit et n'a plus de relation avec l'esprit de Dieu, il vit naturellement selon la chair, et ne peut pas vivre selon l'esprit. Et vous connaissez Romains 8, l'affection de la chair. C'est-à-dire l'attachement à la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, ou l'attachement à l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas vivre selon l'esprit. Il ne peut pas, alors il ne peut que vivre selon la chair, et il est par conséquent mort. C'est ce que la Bible appelle la mort. La mort. L'homme, en somme, est un être, comme les êtres animaux au point de vue physique, un être qui est organisé pour vivre, mais l'homme est autrement organisé que l'animal. L'homme est organisé pour vivre par un corps, une âme, un esprit, mais il n'a pas en lui les ressources de la vie. Ce qui est normal, les ressources de la vie doivent lui venir de l'extérieur, c'est-à-dire de ce que nous appelons, nous convenons, si vous voulez, d'appeler un environnement. Ces ressources lui viennent donc de l'environnement matériel pour le corps, mais d'un environnement spirituel pour l'esprit. Or, chez l'homme, la vie du corps n'est pas la vie véritable. Lisons quelques textes. D'abord, Jean 5, 40. « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Voilà, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses contemporains, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ce qui veut dire, si vous ne venez pas à moi, vous n'avez pas la vie telle que vous êtes, vous n'avez pas la vie en vous-même. Au chapitre 6 et au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Voyez, n'est-ce pas? Vous n'avez point la vie. Vous êtes organisé pour vivre, vous êtes un être qui peut vivre, mais vous n'avez pas l'apport d'énergie, j'appelle ça énergie, l'apport énergétique, vous ne l'avez pas pour vivre. Il vous manque quelque chose d'important, il vous manque, en somme, l'aliment de la vie. Intéressons-nous à cet environnement spirituel, puisque nous l'avons appelé ainsi. Eh bien, l'environnement spirituel, l'environnement matériel pour le corps, nous l'avons dit, n'est-ce pas, c'est tout simple, tout ce qu'il emprunte à la biosphère, à son cadre de vie, la nourriture, l'air, etc. Mais l'environnement spirituel, quel est-il? L'environnement spirituel est tout simplement Dieu. C'est Dieu qui le détient et c'est Dieu qui le donne. L'environnement spirituel, c'est en somme tout ce que Dieu seul peut apporter à l'homme pour qu'il ait la vie en lui-même. Sans Dieu, il n'y a pas de puissance d'esprit, il n'y a pas de vie d'esprit, il n'y a point, par conséquent, de sagesse et pas d'intelligence, de cette intelligence adaptée à la vie véritable. Nous allons prendre dans Jean encore un texte, Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'image est véritablement là d'une clarté éblouissante. À ce moment-là, le Seigneur Jésus et les apôtres descendaient, venaient de la salle où ils avaient fêté la Pâque, et ils descendaient, ils allaient monter vers Gethsémané, ils descendaient par un chemin bordé de vignes. Et il faisait certes nuit déjà, mais sans doute y avait-il de la clarté, un clair de lune, car le Seigneur prend occasion de ces pampres de vignes qui sont là à droite et à gauche, pour dire cela aux apôtres. Et alors là, nous avons une très belle image. Si le sarment n'est pas attaché au cep, il est évident qu'il n'a pas la sève qui le nourrit, et par conséquent, il ne peut pas porter de fruits. Et s'il ne porte pas de fruits, c'est qu'il est mort. Il est du bois inutile, du bois qui va sécher, même s'il a encore un peu de vie, un peu de verdeur, il ne va pas continuer, il va devenir bois mort, et de toute manière, on ne peut que le couper. Eh bien, alors le Seigneur dit, mais c'est la même chose. Si vous demeurez en moi, autrement dit, si vous êtes branchés sur moi, voyez, il y a là, n'est-ce pas, une vérité qu'il faut voir, dans toute sa force, si vous n'êtes pas branché sur moi, eh bien, vous êtes comme le sarment qui n'est pas attaché au cep. Celui qui demeure en moi, qui est branché sur moi, et en qui je demeure, Ce qui veut dire, n'est-ce pas, en qui je peux apporter la sève spirituelle. Eh bien, alors, celui-là, il porte beaucoup de fruits. Mais si cela n'est pas, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez ni porter du fruit, ni même continuer de vivre. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un donc n'est pas en Christ, eh bien, il ne peut absolument pas vivre et participer à la vie. Voilà l'apport extérieur pour la vie véritable, qui est un apport spirituel, mais plus important que l'apport physique, matériel, dont le corps a besoin. Et c'est ce qui fait dire au Seigneur Jésus aussi, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain, c'est pour son corps, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a, dans la parole qui sort de la bouche de Dieu, il y a un véhicule de la puissance de vie. La puissance de vie, il y a par conséquent une énergie spirituelle qui passe par Christ et qui par conséquent est élaborée spécialement pour l'homme, les hommes que nous sommes, et elle nous parvient comme cet aliment, comme cette sève dont nous avons le besoin le plus grand, un besoin vital. La vie dépend de cela. Alors, Jésus-Christ est venu pour cela, on le sait, pour nous permettre de revenir à Dieu, d'être réconciliés avec Dieu et d'être par conséquent à nouveau en relation avec Dieu. Mais on a le tort, souvent, et c'est ce qui fait le besoin de cette étude, on a le tort de penser que tout s'arrête là. On est réconcilié, eh bien ça va, on n'est plus fâché, n'est-ce pas ? On est en bon terme avec Dieu, puis ça va, et on ne sait pas suffisamment, et quelquefois pas du tout, que l'on a constamment besoin de Dieu. C'est pas seulement une réconciliation, le terme est dans la Bible, mais il y en a d'autres, il y a ceux que nous venons de voir, il y a ce branchement sur Christ, demeurer en Christ, être attaché à Christ, c'est cela aussi. Alors le Seigneur nous réconcilie, et quand il nous a réconciliés, il nous lie au Père à travers lui, il nous lie à Dieu. Ça, il faut bien le savoir. Vivre détaché de Dieu et par conséquent de Christ, c'est vivre selon la chair, comme un serment séparé du cep. Nous allons voir quelques textes de l'Ancien Testament pour que nous ayons bien, nous réalisions bien que tout cela était vraiment annoncé dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau. Prenons Job, le livre de Job. Job, d'abord 28, verset 20. D'où vient donc la sagesse ? Où est la demeure de l'intelligence ? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler, c'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Je ne vais pas plus loin, vous voyez, n'est-ce pas, qu'il y a dans l'apport spirituel, venant de notre environnement spirituel, qui est Dieu, qui est Christ, si vous voulez, eh bien, il y a déjà cette sagesse et cette intelligence absolument nécessaires. Bon, restons encore dans Job, allons au chapitre 32 et au verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voyez-vous, En réalité, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Si donc l'esprit de l'homme a été réveillé par la régénération, eh bien cet esprit doit nécessairement attendre et recevoir de Dieu le souffle de l'intelligence. L'intelligence, et le mot intelligence, on pourrait évidemment l'éclairer, je ne vais pas le faire, ça nous retarderait trop, mais cette intelligence de la vie, ce n'est pas seulement une faculté qui permet de comprendre ou d'analyser les choses. Cette intelligence de la vie, c'est un dynamisme spirituel. Restons encore dans Job et allons au chapitre 36 et au verset 5. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Voyez ce que je vous disais à l'instant, l'intelligence est un apport de puissance, d'énergie. Cette intelligence spirituelle, ce n'est pas l'intelligence des grands savants, des scientifiques, parce que ces scientifiques, ils ont une faculté très développée, ça prouve que l'homme est une machine très perfectionnée, et ça ne prouve que ça. Mais ces gens très intelligents, lorsque ils sont fermés la révélation de Dieu, volontairement, ils se ferment, ils endurcissent leur cœur, eh bien, ces gens-là sont absolument inintelligents en ce qui concerne la vie. Et ils le montrent bien. Donc, vous voyez qu'il y a la puissance. Et Dieu ne rejette personne. Ce qui veut dire ici, surtout si on regarde de près un peu l'hébreu, le sens est celui-ci. Dieu est puissant, mais il n'écarte personne du don de cette puissance, du partage de cette puissance. Allons au chapitre 38, toujours de Job, et verset 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Alors, je m'en tiens à ce verset, qui a mis la sagesse dans le cœur, qui a mis l'intelligence à l'esprit, bien sûr, c'est l'Éternel lui-même qui s'exprime ici dans ce chapitre, eh bien, c'est lui qui a mis l'intelligence, et voyez, la sagesse, dans le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme a besoin de cet aliment-là. Allons au livre des Proverbes, au chapitre 16 et au verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. La sagesse est une source de vie. Voyez-vous, cette sagesse dont nous venons de parler avec le livre de Job, eh bien, elle est une source de vie, elle est un aliment de vie. Et qu'est-ce que fait une source? Elle débite constamment. Arrêtez un fleuve, coupez-le. À un certain point de son parcours, détourner les eaux qui viennent de la source, hein, même si ce fleuve est large, il ne tardera pas à sécher, ses eaux baisseront, et il va sécher, il va mourir. Il va mourir, parce qu'il est coupé de la source. Eh bien, la sagesse est une source de vie. Et tout cela n'est pas dit sur un mode sentimental, un mode, comment dirais-je, plus ou moins évasif. C'est quelque chose qui est rigoureux, qui a la rigueur de la science. D'ailleurs, la Bible, c'est le livre de la science de la vie. Bon, nous allons maintenant aller un peu plus loin dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 33, verset 6. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion, c'est-à-dire le trésor du peuple que Dieu se forme, d'Israël et de l'Israël de Dieu, n'est-ce pas? La crainte de l'Éternel, c'est ce qui permet d'approcher l'Éternel, de venir vers lui. Mais ce même verset nous dit que la sagesse et l'intelligence sont une source de salut, autrement dit de vie, comme le livre des Proverbes vient de nous le dire. Sagesse et intelligence, celles dont le livre de Job nous a parlé. Et il y a là une puissance d'orientation, une puissance de régulation. Chers amis, dans la vie physique, il y a un pouvoir régulateur qui intervient constamment. Et si ce pouvoir régulateur n'intervenait pas, n'était pas là, mes amis, alors là, vous seriez tous à vous tordre sur votre lit en ce moment. Vous seriez dans les affres des souffrances physiques les plus terribles. Et c'est, nous devons la santé, autrement dit, à un pouvoir régulateur pour la vie physique. Et c'est quand ce pouvoir régulateur est mis tant soit peu en échec que surviennent les maladies et toutes sortes de désordres dans le fonctionnement de notre organisme. Eh bien, il en est de même de la vie spirituelle. Il en est de même. Il y a cette intelligence et cette sagesse qui apporte une puissance et un pouvoir régulateur, un pouvoir d'équilibre, un pouvoir de mise au point constamment. Ensuite, nous allons au chapitre 42 d'Ésaïe, chapitre 42 et verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison. Mais nous restons au verset 6. Ceci est dit prophétiquement au Messie. Le Messie, si amplement annoncé dans ce prophète, c'est à lui que s'adresse cette parole. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Eh bien, la lumière des nations, voilà une expression dont nous allons nous saisir. Mais je vais vous dire d'ailleurs que l'environnement divin, nous venons d'en parler comme d'une sagesse et d'une intelligence qui transporte, qui véhicule le pouvoir de la vie, qui véhicule la puissance, qui véhicule le pouvoir régulateur, le pouvoir d'équilibre. La vie a besoin constamment d'un équilibre, c'est ce que j'appelle le pouvoir régulateur. Eh bien, maintenant, l'environnement spirituel, l'environnement divin venant de Dieu, nous allons pouvoir l'appeler lumière. Ce mot mystérieux employé beaucoup dans l'évangile de Jean notamment, nous allons l'appeler lumière. Mais laissez-moi vous dire avant que nous nous aventurions dans cette des considérations sur la lumière, car je dis bien, je le répète, c'est un terme biblique mystérieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas savoir ce qu'il veut dire, mais ça veut dire que c'est un mystère à pénétrer par foi et par le secours du Saint-Esprit. Un mystère, dans la Bible, ce n'est pas quelque chose d'impénétrable, mais c'est quelque chose qui ne peut se connaître que par la révélation. Auparavant, je voudrais vous dire que le tort de la vie religieuse, où beaucoup d'hommes se complaisent, que ce soit dans les églises traditionnelles, historiques, ou que ce soit dans une véritable église évangélique, chers amis, il y a des hommes qui retombent dans cette ornière de la vie religieuse. De temps en temps, j'entends quelqu'un me dire que quelquefois, le culte de nos assemblées est vu par certains à peu près la même chose que la messe par les catholiques. Hein? On va au culte comme on va à la messe. Eh bien, c'est un tort. C'est le tort de cette vie religieuse où restent malheureusement certains hommes. Et ce tort, c'est de vivre sans un réel environnement divin. Ils ne captent pas, ils ne prennent pas par la foi cette intelligence, cette puissance, cette lumière, nous allons parler de lumière, venant du Seigneur Jésus, qui dit « Je suis la lumière du monde ». Ils ne le prennent pas, cet environnement, et alors ils végètent, ils ont une vie religieuse, mais ils n'ont pas la vie véritable. Sans union avec Christ, cette vie véritable est impossible. Si notre vie chrétienne était cela, était cette vie religieuse, elle serait absolument illusoire. Être enfant de Dieu, c'est être enfant de lumière. Et c'est Paul qui emploie, lui, l'expression, je crois que c'est dans Éphésiens 4, enfant de lumière. Éphésiens chapitre 4 et verset 17, mettons, oh, c'est pas tout à fait là, mais... C'est au chapitre 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et je voudrais vous lire aussi quand même, au chapitre 4 des Éphésiens, verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Et ils n'ont pas d'aliment spirituel, ils marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, autrement dit, ils n'ont pas l'intelligence spirituelle. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, étrangers à la vie de Dieu, voyez-vous. À cause de l'ignorance, ou si vous voulez, à cause de cette rupture qu'il y a entre eux et Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parce que l'ignorance pourrait cesser si leur cœur n'était pas endurci. Alors, vous êtes des enfants de lumière. Cela va nous faire dire, je l'ai déjà dit, je le redis, l'environnement divin est essentiellement dans les Écritures appelé lumière. Je dis bien dans les Écritures, parce que dans l'Ancien Testament aussi. Alors, nous allons tout de suite aller au chapitre 1er de l'Évangile de Jean. Il y a là, vous savez, des textes très condensés, très très condensés. C'est ce qui fait la difficulté de la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. C'est cette manière de décrire des écrivains sous l'inspiration. Ils ont été, en somme, très contenus et il leur a fallu exprimer quelque chose qu'ils ressentaient, quelque chose qui était même un témoignage en eux, mais d'une façon tellement concise qu'ils n'ont pas été libres de la rédaction, heureusement, et ils ont rédigé sous les orientations, les directions du Saint-Esprit. Alors c'est très condensé. Lisons chapitre 1, verset 4. En elle, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a là toute une révélation, vous le sentez bien. Dans la parole de Dieu, la parole qui était Dieu, qui était avec Dieu, qui était au commencement avec Dieu, c'est-à-dire qui a toujours été avec Dieu, cette parole qui a fait toute chose dans le verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, eh bien, dans cette parole, en elle, dans cette parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il ne nous est pas dit que la parole était la vie, mais que en elle était la vie. Et c'est ce que Jean reprend dans son début de la première épître. Il nous dit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, ce que, mais ce que, c'était la personne du Seigneur Jésus. Oui, mais il désigne la vie véritable qui a été manifestée par lui et qui était en lui. Hein? Alors, en somme, l'Écriture nous fait regarder Dieu comme une personne, la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit, comme une personne. Une personne qui nous voit, qui nous aime, et qui veut nous faire beaucoup de bien, qui ne cesse de nous faire du bien, mais il nous la fait regarder aussi comme possédant la source de la vie, ayant, disposant de cette chose inouïe qu'est la source de la vie. Alors, méditons un peu ce verset. 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En somme, la parole, c'est elle et qui a créé le monde, opéré la création, et le verset 4 déclare qu'elle possédait en elle la vie, la source de vie, et si c'est une source de vie, une source qui, naturellement, tend à se communiquer, tend à livrer, à donner. Une source, ça livre, ça donne. Eh bien, c'est ce qu'était la parole de Dieu. Et ici, il s'agit de la vie véritable, la vie sans qualificatif, la vie véritable. Et cette vie véritable, en plein accord avec les meilleurs exégètes, et je pense à Frédéric Godet notamment, si vous pensez que ce sont des passages sur lesquels les exégètes se sont penchés pendant des siècles. Nous ne sommes pas les premiers, nous, à lire ça. Hein? On n'est pas les premiers, on est plutôt les derniers. Hein? Eh bien, d'accord avec ces exégètes, il n'y a aucune différence faite ici entre la vie physique et la vie spirituelle. Aucune différence. La vie véritable, c'est la vie totale. Comme dans l'Ancien Testament. La vie totale, physique et spirituelle. La vie était donc la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie véritable comportait donc un rayonnement, puisque la vie était une lumière. La lumière des hommes, la lumière destinée aux hommes. Alors donc, cette vie véritable comportait un rayonnement sous lequel les hommes auraient dû demeurer. Mais la suite du texte nous dit bien qu'ils l'ont rejeté, ils ont rejeté cette lumière. Le verset 10 déclare d'ailleurs que le monde a refusé de la recevoir, cette lumière. En elle, elle était dans le monde, la lumière, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue, n'a pas voulu. Ça, c'est le constat de l'état de péché, l'état de séparation voulu par l'homme. Ainsi donc, la vie apporte un rayonnement, tel celui de la lumière physique. Jean, dans sa première épître, nous dit que Dieu est lumière. Et puis Jacques, de son côté, nous dit que Dieu est le Père des lumières. Père, un Père qui dispense, qui donne. Alors, cette lumière, qu'est-elle ? Puisque la vie était la lumière des hommes, donc elle était un rayonnement destiné aux hommes, cette lumière est en effet une clarté intérieure venant de Dieu. Pour mieux peut-être la définir, nous dirons que cette lumière venant de la vie est une forte, une puissante intuition de la vérité et de la sainteté de Dieu. Une puissante intuition. Quand je dis intuition, ce n'est pas quelque chose de vague, mais c'est quelque chose qui pénètre, qui pénètre à l'intérieur de l'homme, de l'esprit de l'homme, et qui y apporte, qui y établit la vérité et la sainteté. Et c'est ce que l'homme avant le péché possédait. Il avait en lui un esprit vivant, et par cet esprit il recevait la lumière de la vie, et cette lumière de la vie établissait en lui la vérité et la sainteté, et il n'avait pas besoin de Bible. Il n'avait pas besoin de Bible. D'ailleurs, vous savez, chers amis, nous l'aimons beaucoup, cette Bible. Elle est parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand le Seigneur sera là et que nous serons avec le Seigneur, c'est fini. La connaissance disparaîtra. Elle ne sera plus nécessaire. Nous aurons l'aliment complet, total, venant du Seigneur. Nous serons toujours avec lui, sous son rayonnement, et nous connaîtrons toutes choses. Et Jean va même nous dire, nous connaîtrons, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Nous aurons un regard sur lui, une vue sur lui, une connaissance, un branchement, si vous voulez, absolument total avec lui. Et pour nous, Dieu n'aura plus aucun mystère. Nous le verrons tel qu'il est, nous le comprendrons. Il ne peut plus y avoir à ce moment-là de séparation entre Dieu et l'homme, à ce stade-là, lorsque nous serons avec lui, avec le Père, avec le Fils. Il n'y a plus du tout d'incompréhension, parce que ça établirait une différence, ce serait un obstacle, mais là, au contraire, il y a pleine correspondance, et l'homme sauvé voit Dieu, le voit. Paul nous dit pour sa part, nous connaîtrons comme nous avons été connus, de la même manière, c'est-à-dire que nous connaîtrons Dieu comme Dieu nous connaît maintenant. Vous voyez? Alors vous allez vous dire, mais est-ce que nous ne sommes pas Dieu? Ce sont les prérogatives simplement qui nous différencieront de Dieu. Bien sûr, Dieu garde à lui les prérogatives. Dieu reste source et non pas nous, n'est-ce pas? C'est pas nous qui serons source, mais nous serons absolument comme lui, n'est-ce pas? Semblable à lui, nous le verrons tel qu'il est. Alors, cela a existé en la personne d'Adam et d'Ève. Et je disais que dans la paléontologie sincère, parce qu'il y en a une aussi, il y en a une, celle-là vous ne la trouverez pas dans les traités. Ce n'est pas la science officielle, parce qu'il y a une science officielle, oui, il y a une science officielle, et ça, on ne l'empêchera jamais. On a beau être en démocratie, il y a une science imposée, une science officielle. Eh bien, dans la science non officielle, la paléontologie, on relève des documents paléontologiques, des fossiles, autrement dit, des fossiles humains, on en relève qui démontrent d'une façon absolument certaine que l'homme n'a pas été cet être brut sortant de l'animalité, comme le schéma de l'évolution veut nous le faire entendre, mais que l'homme, au contraire, a occupé une situation extrêmement élevée. Et l'homo sapiens, aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, qui voudrait être un homme devenu sage, eh bien, n'est qu'un homme encore égaré. Il y a eu, à l'origine, un homme d'une très haute intelligence, si bien que l'on arrive à cette théorie de l'évolution régressive. L'évolution n'a pas été progressive, comme nous dit la science officielle, mais régressive. Monsieur Daniel Vernet, là dont je vous parle, est lui attaché à cette théorie de l'évolution régressive, et j'ai dans ma bibliothèque un livre de deux savants, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais et qui est au contraire extrêmement intéressant et bien documenté, qui s'intitule « L'évolution régressive ». L'homme a été un être très intelligent, non pas ce sauvage qu'on nous montre. Il n'y a jamais eu de sauvage. J'ai écrit d'ailleurs un article il y a quelques années là-dessus. Le sauvage, les sauvages n'ont jamais existé. C'est une pure invention. Il y a eu un homme déchu, certes. Un homme déchu qu'on a trouvé dans des cavernes. Mais cet homme était déchu. Mais il ne venait pas d'une origine sauvage. Il venait au contraire d'une très haute origine. Enfin, cela nous a éloigné peut-être un petit peu du sujet purement spirituel, mais enfin, il est bon quelquefois, n'est-ce pas, de voir que, entre, notez si on le veut bien, entre la révélation de Dieu par la Bible et la science, si tant est qu'on écarte tout ce qui est mauvais, il y a beaucoup de choses, et qu'on cherche dans ce dédale qu'est la science, on cherche à trouver quelque chose de bon, eh bien, on arrive nécessairement à une conjonction entre la science et la Bible. Nous parlions donc de lumière. Dieu est lumière, Père des lumières. Clarté intérieure qui est une introduction qui introduit la vérité, car l'homme a besoin de vérité. Ça, c'est un apport extérieur. Il a besoin de vérité. L'homme ne peut pas vivre sans vérité. Alors, ça a été une des grosses erreurs, un des gros égarements dernièrement de certains de nos charismatiques. Vous savez, ce mouvement charismatique qui nous a beaucoup étonnés, hein. Mais ce mouvement a fait des bonds en arrière et non pas en avant. Lorsque il prétendait que des gens pouvaient être baptisés du Saint-Esprit et par conséquent tout à fait convertis, d'abord sans repentance, ce qui est une hérésie abominable, et puis ensuite sans absolument connaître la vérité. Et alors on nous disait ceci, vous savez, il y en a des hérésies aujourd'hui, on nous disait ceci, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Oui, mais il y mettra le temps, il va vous conduire petit à petit, vous allez voir, ça demandera du temps. Alors pour l'instant, vous allez colporter un tas de choses, un tas d'erreurs, un tas de mensonges, et puis vous allez vivre avec tout ça, et quand même vous êtes régénéré avec tous ces mensonges-là. Eh bien c'est ça le mensonge. Ah, c'est absolument faux. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il faut que la vérité s'installe dans le cœur de l'homme pour que la vie y soit. La vie et la vérité vont de concert. La vérité provenant, si vous voulez, de cette lumière, de cette clarté qui découle de la vie véritable, la puissance de vie. Et cette vérité dans l'homme avait pour fonction, pour avantage, grand avantage, de déterminer la possibilité de rester dans la sainteté de Dieu sans aucune difficulté. De rester dans la sainteté. Adam et Ève, s'ils n'avaient pas écouté cette voix étrangère du serpent et suivi sa suggestion, eh bien, il pouvait être saint sans aucune difficulté. Il n'y avait qu'un seul commandement devant eux. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Un seul commandement. Il pouvait rester saint. Combien de temps sont-ils restés saints? Nous le savons. Il n'est pas dit que la chute se soit produite au lendemain même de la création. Ils ont pu vivre un certain temps, c'est ce que généralement on pense, et par conséquent, en eux, la sainteté pouvait être vécue, car la sainteté, il faut que ça se vive, il faut que ça devienne la sainteté de la vie, pouvait être vécu aisément. Et c'est à quoi nous devons revenir dans la vie chrétienne, mes amis. Alors, c'est pas en faisant danser devant les yeux des chrétiens, des églises, tous les petits fantoches du monde, que l'on va amener les chrétiens à posséder en eux la lumière de la vérité et la sainteté de Dieu pour vivre cette sainteté sans difficulté, sans que cela soit pénible. Voilà ce qui doit arriver dans notre vie chrétienne. La vie véritable, donc, est toujours accompagnée de cette lumière-là. Et Jean, dans son verset 5, c'est toujours l'Évangile, chapitre 1, verset 5, nous dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Alors, nous avons parlé de lumière, parlons un peu de ténèbres. Quelles sont ces ténèbres qui s'opposent à la lumière? Eh bien, les ténèbres sont tout ensemble, deux choses ensemble. Elles sont d'abord un état d'ignorance de la vérité. La vérité est absente. Cet état d'ignorance est l'absence de la vérité. Et comme je viens de vous dire, s'il n'y a pas la vérité, il ne peut pas y avoir la vie, il ne peut pas y avoir la sainteté. Mes amis, si on vous trompe, si vous vous laissez tromper, jamais vous ne serez saint. Et jamais vous n'accéderez à la sainteté. Vous entendez bien? Si on vous trompe et si vous vous laissez tromper, si vous ne vous attachez pas au chef et à la vérité qu'il est, lui, eh bien, vous ne pourrez jamais être saint. Il nous faut la vérité. Et par conséquent, il nous faut le Seigneur. Eh bien là, donc, les ténèbres, c'est un état d'ignorance de la vérité qui est, par conséquent, cet état de péché. Parce que lorsque la vérité est ignorée, qu'elle est absente, alors l'assujettissement au mal, au péché, au mensonge devient la règle courante, s'établit, cet assujettissement s'établit dans celui qui est privé de la vérité. C'est la puissance du mal qui exerce et qui s'exerce en raison de l'absence de la lumière. La lumière rejetée, absence de la lumière de Dieu, alors pas d'environnement, rien qui vient de l'environnement divin, et par conséquent, pas de vérité, et c'est ça l'état de péché. C'est un état d'ignorance, nous l'avons lu. Alors, ça, c'est déjà les ténèbres, et je disais que les ténèbres étaient ensemble deux choses, tout ensemble. La seconde chose, la voici. La parole de Dieu étant source de vie et de lumière pour l'homme, quand celui-ci rompit avec Dieu, il cessa de recevoir la lumière et il fut plongé dans les ténèbres. La parole, elle, conservait son rôle d'illuminateur. Mais l'homme s'était retiré, s'était coupé de la source de lumière, et par conséquent, il s'était plongé dans les ténèbres. Donc, l'absence même de parole de Dieu, l'absence de relation avec Dieu, amène immédiatement un état de choses qui s'appelle les ténèbres. Alors, les ténèbres est à la fois l'état de péché, c'est-à-dire alors là, n'est-ce pas, la production de toutes sortes de choses, d'actes, de paroles qui sont le mal, et puis, deuxièmement, la privation de la lumière de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous dit, dans le chapitre 8 de Jean, et au verset 12, chapitre 8 de Jean, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, « Je suis la lumière de la vie. » Bon, cela résulte déjà du commencement de l'Évangile. La parole en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, Jésus apporte la vie. Et par la vie, avec la vie, ou par la vie, la lumière, le rayonnement de clarté qui établit la vérité dans les cœurs. Mais maintenant, là, il nous dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Autrement dit, celui qui ne suit pas marchera dans les ténèbres. Alors, il faut donc suivre le Seigneur. Il faut le suivre si l'on veut être dans sa lumière, c'est-à-dire marcher comme il a marché lui-même, le prendre comme exemple. Et chers amis, alors je ne sais pas moi comment ceux qui incitent aujourd'hui les chrétiens à toutes sortes de libertés, entre guillemets, de prétendues libertés, toutes sortes de nouveautés, comment ils peuvent aussi dire aux chrétiens de suivre Jésus. Hein? C'est absolument incompatible. Incompatible. Si nous avons à suivre Jésus, bien entendu, ce qu'il n'a pas pris du tout, nous ne le prendrons pas. N'est-ce pas? Nous ne le prendrons pas. Suivre Jésus pour être dans la lumière. À cela, pour illustrer cela, nous pourrions peut-être faire une petite comparaison. Vous savez qu'on fait aujourd'hui des satellites. Vous savez ce que c'est qu'un satellite, hein? Oui, maintenant tout le monde sait ça. Un satellite stationnaire, c'est-à-dire un satellite qui va constamment rester sur un point déterminé, n'est-ce pas, de la Terre. Et il va suivre par conséquent ce point de la Terre, il va le suivre. Et puis il y a aussi des satellites qui eux compensent la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même, une vitesse angulaire par conséquent, n'est-ce pas, qui compense cette vitesse. On leur donne une vitesse qui compense cette vitesse, et ces satellites situés à certains endroits, peuvent rester constamment sous le rayonnement solaire, c'est-à-dire qu'ils échappent à la nuit qui couvre une partie d'une moitié de la Terre lorsque celle-ci est à l'opposé du Soleil. Hein. Eh bien, eux, ils restent toujours exposés au Soleil. Ils ont une vitesse angulaire qui compense celle de la Terre. Ces satellites sont surtout voulus en vue d'obtenir précisément le rayonnement du Soleil, une certaine chose dans le rayonnement du Soleil que l'on recherche. Eh bien, ces satellites nous donnent l'image du chrétien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, en somme, suivre le Seigneur et toujours être illuminé par lui qui est le soleil de justice? Eh bien, il faut avoir une marche, donc une vitesse telle que nous compensions cet entraînement de la Terre. Et alors, puisque nous allons de l'image à la réalité, l'entraînement de la Terre, l'entraînement du monde, le monde qui voudrait nous mettre dans la partie ténébreuse, dans la nuit, dans les ténèbres. Il faut donc compenser cela. Il faut, chers amis chrétiens, il faut donc que notre marche avec Jésus soit une annulation pure et simple de l'entraînement du monde. Une annulation pure et simple de l'entraînement du monde. Voilà ce qu'il faut, la marche avec Christ est ni plus ni moins cela. Jésus, lorsqu'il nous disait « Je suis la lumière du monde, celui qui ne marche pas dans les ténèbres », aura la lumière de la vie. Il faisait allusion aussi, bien sûr, à une lumière qui marchait, en effet, car il faisait allusion à la nuée lumineuse qui guidait le peuple d'Israël dans le désert. Celui qui me suit est conduit dans le chemin de la vie, selon l'Esprit, pour lui, les ténèbres sont laissées de côté. Il échappe aux ténèbres. La nuit dans laquelle vit l'humanité est pleinement chassée, écartée par le fait que celui-là suit le Seigneur et est toujours illuminé par la nuée lumineuse venant de Christ. Celui qui suit Jésus, en somme, est sorti, je prends un autre langage, est sorti de l'ignorance, des passions, des péchés, des haines, des entraînements, de la mentalité du monde, des suggestions du monde, il est sorti de tout cela, et il se tient en dehors de tout cela, il est tenu en dehors, et la lumière venant du Seigneur le fait vivre pleinement. Elle dirige l'exercice de son intelligence, elle nourrit son intelligence et met en lui la sagesse divine. Voilà tout cela. C'est tout cela que le Seigneur Jésus nous dit dans ce petit verset 12 du chapitre 8. Eh bien, nous continuerons cela demain, Dieu voulant.